Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Pascal Wick. Bonjour.
Bonjour, bonjour Yves.
Pascal, vous allez bien ?
Ça va.
Et donc, vous êtes ici pour nous annoncer une conférence que vous donnerez ce dimanche 14 à Anderter à partir de 18h. Alors, c'est consécutif à votre séjour que vous avez opéré, le dernier séjour, donc du 1er octobre au 15 novembre. Opéré en Cisjordanie et donc vous êtes peut-être plein de témoignages à offrir ou à faire entendre.
Oui, c'est ça. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je vais en Cisjordanie, depuis 2010 donc. Et oui, j'ai envie de témoigner parce que il y a vraiment un niveau... Le dernier séjour que j'ai fait, donc du 1er octobre au 15 novembre, ah oui, c'était très différent des autres, très différent. Aussi bien le contact avec les Israéliens, aussi bien la vie du village. Je vais toujours dans le même village, hein, à Deir Istia, donc j'ai des amis là-bas, des familles que j'ai vues, les enfants grandir, etc. Ah oui, là, c'était très différent des autres fois, quoi. C'était un choc. La situation, vraiment, c'est un autre niveau.
Ce choc perdure encore ?
Ah oui, ça perdure encore. J'ai même souffert physiquement, dans le sens où il y avait beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, beaucoup de... Ouais, d'angoisse, etc. Je pense que mon système immunitaire... On a reçu, et j'ai eu beaucoup de problèmes de santé là-bas, alors que je n'en ai jamais eu avant. J'ai même attrapé une infection bactérienne, enfin, etc. J'ai eu des diarrhées pas possibles, enfin bon, voilà. Et il y a eu plusieurs fois. Donc là, j'y étais à la période de la cueillette des olives. Donc j'ai participé à cette cueillette des olives dans la mesure de mes moyens. Moi, j'ai 84 ans, donc c'est des moyens assez relatifs. Mais oui, j'ai vécu au moins 3 fois des agressions vraiment incroyables, quoi. C'est un autre monde. J'ai fait face à... Ou plutôt, des individus m'ont fait face. Ah oui, je me suis dit, j'ai jamais rencontré des gens comme ça de ma vie, quoi.
Peut-être pour amener un peu cette notion de contraste hein, avec ces 15 dernières années où périodiquement vous vous rendiez justement pour cette cueillette d'olives. Vous êtes déjà venu il y a quelques mois pour parler de cette situation et vous avez senti ce glissement petit à petit déjà apparaître ou alors il y a eu un bouleversement vraiment dû à ce dernier voyage ?
Non, il y a eu une progression de l'occupation. C'était toujours plus... C'était présent davantage à chaque fois. Mais là, ça a atteint un autre niveau, quoi. C'est-à-dire que j'ai jamais senti que la vie pouvait être en danger quotidiennement, quoi. Et là, c'est le cas. Ouais. L'avant-dernière fois où j'y suis allé, c'était en 2024. Février-mars 2024. Donc, quelques mois après les événements du mois d'octobre 2023. Et là, je m'étais imaginé que c'était possible qu'une bande de colons rentre dans le village, comme c'était déjà arrivé, et je me trouve dans la maison qu'ils allaient envahir, etc. Donc, je me l'étais imaginé, mais je ne l'avais jamais vécu. Là, je n'ai pas vécu... l'introduction dans la maison, etc. Mais au niveau de la cueillette des olives, j'ai vécu les attaques de colons. Ouais. Et ça, c'est vraiment... on se trouve en face d'individus qui sont dans un autre monde, quoi. Hein. Je veux dire, on le voit dans les yeux, on le voit dans la façon dont il bouge, etc. C'est comme une meute. Moi, j'ai observé, parce que j'ai gardé dans pas mal... J'étais berger pendant une vingtaine d'années de ma vie, quoi. Et j'étais berger notamment en Amérique du Nord, où j'avais tous les prédateurs possibles. Voilà, des loups, des ours, deux espèces d'ours, des pumas, des coyotes, enfin ce qu'on veut, quoi. Et je me suis senti souvent la proie, surtout des ours, parce que je leur ai fait... Ils m'ont fait face plusieurs fois. Et puis je voyais que... Ils me suivaient sans que moi je sache qu'ils étaient là, quoi. C'est eux qui me voyaient, etc. Donc je me suis dit, je me sentais pouvant être une proie. Et voilà, c'est exactement pareil, quoi. J'ai vraiment ressenti que j'étais la proie de ces individus. C'était pas une guerre, parce qu'ils sont, là à découvert, etc. Ils risquent rien, quoi, eux. Mais je veux dire, il y en a qui sont armés, en tout cas avec... D'abord, ils saisissent de pierres, ils ont des bâtons. Il y en a qui sont armés avec des fusils mitrailleurs, enfin voilà, quoi. On se trouve en face de ça, quoi. C'est un autre monde. Mais c'est pas la guerre, hein, c'est encore autre chose, parce que la guerre, l'ennemi... Si vous le voyez que lui ne vous voit pas, il est tué. Tandis que là, non, ils sont devant vous comme ça et ils ont tous les droits et vous, vous n'avez aucun droit, quoi. Ah oui, c'est impressionnant, quoi.
Pour amener un peu cette notion de contraste par l'expérience de ces cueillettes, hein, que vous opérez, on peut peut-être expliquer comment ça passe, cette phase de cueillette au sein du village, avec quelle population, quel est le cérémonial aussi, peut-être, autour de ça, et qu'est-ce qui a changé depuis ces derniers mois ?
Moi, quand je suis venu la première fois en 2010, c'était aussi pour la cueillette des olives. Depuis, j'y suis allé à toutes les saisons, donc la cueillette des olives, c'est saisonnier. Je ne suis pas toujours allé pour la cueillette des olives. Mais la première fois où je suis allé en Cisjordanie, c'était pour aider les Palestiniens qui avaient des problèmes de cueillette des olives. Mais les problèmes, c'était, mettons, qu'ils étaient empêchés d'aller sur une de leurs terres. Et c'était que, mettons, les femmes qui pouvaient y aller pendant une journée. Donc, ils ne pouvaient pas s'imaginer cueillir tout en une journée. Donc, on venait pour les aider à cueillir les olives, etc., que ça puisse se faire et qu'ils puissent quand même ramasser ce qu'il y avait comme olives, cueillir. Quelquefois, c'était... oui, parce qu'il y avait des menaces, mais c'était des menaces... On venait en tant que présence d'internationaux et aussi d'Israéliens qui aidaient les villageois palestiniens. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et ça faisait que ça limitait les conflits. Tandis que là, non, moi j'ai vu même sur les 6 semaines où j'étais là-bas, j'ai vu une évolution au point où les colons qui viennent pour en débattre avec les Palestiniens, ils disent « amenez les internationaux, la prochaine fois, c'est eux qu'on va attaquer, etc. » Ça se passait pas les premiers jours où j'étais là. Ça se passait les derniers jours où j'étais là, ça. Donc, il y a même sur 6 semaines, il y a eu une évolution de la violence, quoi.
On peut revenir un peu sur cette notion de cueillette. Donc, comme vous le disiez, seules les femmes pouvaient être autorisées à aller... cueillir et assister de personnes internationales. D'ailleurs, quelle association, quelle structure se prévaut pour permettre des gens comme vous à venir prêter la main ?
Bon, il y en a plusieurs, hein, des associations qui aident à ça. Moi, la première fois où j'y suis allé, et là, la dernière fois quand j'y suis allé, là, au mois d'octobre-novembre, j'ai participé avec le même groupe. C'est un groupe bouddhiste. Et donc, il y a, mettons, Nicolas, dont vous avez mentionné le nom, de Di, qui est parti là pour plusieurs mois. Il est parti avec une organisation palestinienne qui s'appelle ISM, une organisation de soutien à la Palestine. Il y en a différentes, quoi. Hein. Il y a des au niveau de régions, en France, il y a des groupes qui regroupe ceux qui ont envie d'aller là-bas pour aider, etc. Il y en a, hein, il y en a des organisations qui organise ses voyages et ses aides à la Palestine.
Et donc, depuis peu, justement, les colons voient d'un mauvais œil cette participation de personnes étrangères.
Ils l'ont toujours vu d'un mauvais œil, mais de là à aller jusqu'à ce qu'ils font aujourd'hui, c'est que vraiment, le gouvernement de M. Netanyahou, aujourd'hui, il est composé en grande partie de colons. Et donc, ces colons se trouvent... Je veux dire, ils sont dans une mentalité, ils sont chez eux, quoi. Hein. Et les Palestiniens n'ont rien à faire là et ils n'ont aucun droit. On voit des jeunes, c'est souvent des jeunes hein, de 15 à 25 ans, et on en voit qui rentrent dans des maisons de Palestiniens qui s'installent là comme s'ils étaient chez eux. Et si jamais les Palestiniens les poussent du doigt, c'est eux qui sont en tort. Et ils sont tout le temps là, ces jeunes-là, ou les colons, hein, je veux dire, ils sont tout le temps là avec le portable pour filmer. Et si jamais on les repousse ou quoi que ce soit, ça y est, ils vont dire que c'est vous qui les agressez. Et l'armée qui est là, soi-disant, l'armée d'occupation n'a pas de pouvoir sur les Israéliens en Cisjordanie. C'est l'armée... Non, voilà... Donc, s'il y a un conflit entre des colons et des Palestiniens, et que l'armée est là, c'est forcément les Palestiniens qui vont être refoulés, puisqu'elle n'a pas de pouvoir sur les colons. Sur les colons, c'est uniquement la police qui a un pouvoir. Mais la police israélienne, elle n'est jamais là, quoi.
Alors, on peut parler de ce village aussi, Deir Itzitia.
Deir Itzitia.
Deritzia, si je n'arrive pas bien le prononcer. C'est un village de combien d'habitants vit essentiellement d'olives, j'imagine, alors ?
Non. D'abord, c'est intéressant la question, parce que Deritzia, c'est le même nombre d'habitants que Die, à peu près, 4000 habitants. Hein. Et depuis cet automne, il y a un projet de faire un jumelage entre Die et Deritzia. Et les deux conseils municipaux, le conseil municipal de Die et le conseil municipal de Deir Itzitia, ont fait, à l'unanimité, se sont prononcés pour faire ce jumelage. Donc on va voir si ça aboutit, c'est un long processus, un jumelage. Hein. Mais enfin, il y a cette volonté de faire que... pour l'instant, ça s'appelle un peu jumelage vigne-olive. La question de savoir si les habitants de Deir Itzitia vivent principalement de la cueillette de leurs olives, c'est un revenu important. Et comme cette année, ça crée des gros problèmes, parce qu'ils n'ont pas pu récolter une bonne partie de leurs olives à cause des attaques des colons. Et en plus, c'est une très mauvaise année au niveau des rendements, parce qu'il y a eu une énorme sécheresse. Et donc, mais... Oui, c'est un moment, c'est un revenu complémentaire pour beaucoup d'habitants de Deir Itzitia. Il n'y a pas beaucoup de familles qui n'ont pas des oliviers. C'est pas leur... Il y a des familles pour qui c'est une occupation principale, mais il y a d'autres familles, non. La plupart des gens, ce n'est pas leur occupation principale. Mais c'est un complément de revenu important, et puis c'est une ressource qu'ils utilisent eux-mêmes, etc., quoi. Et ça va jusqu'à faire... parce qu'avec le tout, une fois que l'olive a été pressée pour en extraire l'huile, il reste les tourteaux, etc. Et ça, de nouveau, ça joue dans l'économie du village.
Justement, cette économie permet donc de distribuer cette production. Quelles sont les structures actuellement qui le permettent au sein du village ?
Vous voulez dire de vendre la production ?
Oui.
Ben, il y a... Cette année, vu que la récolte a été très mauvaise, il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche d'huile d'olive. Donc, il y a les moyens de la vendre. Ensuite, il y a deux organisations que moi, je connais bien, qui travaillent à Deir Itzitia, des organisations israéliennes, qui font que l'huile d'olive peut être vendue à un prix premium sur le marché israélien. Ce n'est pas forcément légal, etc., mais ils le font. Ensuite, il y a une coopérative qui fait que l'huile d'olive... rejoint d'autres producteurs de Cisjordanie et est exporté aussi en France, etc. Quoi. Donc il y a des circuits. Bon, ces circuits sont toujours très contraints par l'occupation israélienne, parce que pour sortir de... Pour aller d'un village à l'autre, on passe des checkpoints. Et les checkpoints, un jour, ils sont fermés, un jour, ils sont ouverts, etc. Pour, là, quand j'étais là, c'est, moi, ça ne m'était jamais arrivé, ça. Le village de Derystia, il y a plusieurs sorties. Comme a dit, on peut, bon, 10, c'est une vallée, donc il n'y a pas 36 sorties. Il y a une sortie est, une sortie ouest. Mais enfin, on peut aller à Romilly, on peut aller à Caen, on peut aller... voilà, donc il y a différents... moyen de joindre d'autres destinations. C'est la même chose à Derystia. Et imaginez-vous, il n'y avait qu'une sortie et qu'une rentrée pour arriver à Derystia. Et elle a été utilisée en plus par d'autres villages. Donc il y avait, je dis, il y a des camions de 38 tonnes qui passaient par tout le temps, là, pour, parce que ça alimentait également d'autres villages. Donc ça, et chaque fois des checkpoints, etc. Donc c'est le mouvement des populations est énormément contraint. Il y a des contraintes, je veux dire, quotidiennes, journalières. D'heure en heure, ça peut changer. Et un voyage, normalement, qui prendrait sur, pour aller à, je sais pas moi, pour aller à Saillant, vous mettez, mettons, 20 minutes, ça peut vous mettre 3 heures. Ou alors même, il va falloir passer ailleurs parce qu'il y a un checkpoint qui est fermé, etc. quoi. Donc tout ça, ça complique le... Ça complique la vente, l'achat des produits nécessaires, etc. quoi. Imaginez, vous partez avec un camion de légumes. C'est en plein été. Vous êtes bloqué à un checkpoint. Les légumes, au plein soleil, ça va vous coûter cher, cette histoire.
Alors, il y a ces échanges avec les habitants hein, de... Derystia, vous en connaissez puisque régulièrement vous vous rendez sur ces lieux. Quel est leur point de vue de cette situation, de ces habitants sur cette occupation et de cet harcèlement en quelque sorte de colons ?
Ben là, le point de vue, c'est que je veux dire, la vie est difficile. La vie est très difficile. Il y avait 100 000 Palestiniens qui allaient travailler quotidiennement en Israël, avec des salaires un peu plus élevés que ce qu'il y a en Palestine. Ces 100 000 permis pour aller travailler, après le mois d'octobre 2023, ils ont été supprimés. Donc il y a une source de revenus là, qui a disparu d'un coup. Les olives, c'est une deuxième source de revenus. La difficulté de récolter, les terres qui sont... expropriés, sans contrepartie, hein, parce qu'il y a des colonies qui s'établissent, parce qu'il y a des routes qui sont créées pour que les colons puissent aller directement en Israël, avec, en 25 minutes, 30 minutes, ils travaillent là-bas, etc. Donc tout ça, c'est des oliviers qui sont supprimés sans aucune contrepartie. Il y a des terres qui sont réquisitionnées sans aucune contrepartie. Donc le revenu des habitants ne fait que baisser. Moi, je suis parti avec une certaine somme d'argent que les Diwas ont participé pour construire des cartons d'alimentation qu'on a achetés, etc., avec d'autres financements aussi. On les a regroupés pour distribuer aux habitants de Derystia parce qu'il y en a qui ne mangent pas à leur faim. C'est pour dire la situation dans laquelle ils sont, quoi.
Je reviens à ma question, donc. Quels sont les échanges avec cette population que vous avez pu opérer et d'avoir leur point de vue sur cette situation ?
Moi, les échanges que j'ai avec cette population, comme je vous ai dit, ça fait 15 ans que j'y vais. Moi, j'ai des amis là-bas, j'ai des familles dont j'ai vu grandir les enfants, mourir les anciens, etc. Donc, c'est des rapports très étroits. Bon, il y a le fait que je ne parle pas l'arabe. Ça joue beaucoup et malheureusement, ça genre beaucoup de choses. Mais là, il y a un grand pourcentage de gens, de personnes qui parlent l'anglais. Moi, je parle l'anglais couramment, donc ça on peut communiquer. Donc.
Voilà. Et est-ce qu'il y a une représentation qui puisse être leur porte-parole de ces habitants, avec qui il y a peut-être un moyen de pouvoir solutionner des problématiques ? Est-ce qu'il y a un maire ? Je ne sais pas comment.
Oui, il y a un maire, bien sûr. Parce que je
voulais savoir.
Le conseil municipal a voté à l'unanimité ce projet de jumelage avec 10. Donc il y a une mairie. voilà, les maires sont élus pour pas... Voilà, ils sont élus pour 2 ans. Donc, ça remet souvent en question les projets de chaque mandature. Mais oui, oui, bien sûr qu'il y a des partis politiques, etc. Quoi, hein. Bien sûr, il y a des gens qui représentent la population.
Et est-ce qu'il y a encore cette croyance en ce pouvoir, en cette représentation pour essayer d'améliorer cette situation?
Ben, l'améliorer, ça dépend pas d'eux, l'amélioration. Ça leur est imposé. Hein. Ça leur est imposé par la puissance occupante. C'est un pays qui est sous occupation depuis 50 ans. Hein. 67, ça fait combien? Ça fait beaucoup d'années, ça. 67, ça fait 40 pour 2007, et ensuite encore 18... Ouais, ça fait plus de 50 ans. Hein. Et ils sont sous une loi martiale. C'est la loi de l'occupant, c'est l'armée qui détermine. C'est la personne qui vous contrôle. C'est le deuxième classe qui vous contrôle au checkpoint, qui peut décider, quand ça lui chante ou pas, si vous passez ou si vous passez pas. Il peut vous... Il y a des personnes qui ils leur demandent leur papier d'identité et après ils rentrent là où ils sont et ils laissent la personne là pendant un quart d'heure, une heure, une journée entière, une nuit entière. Et si la personne part sans récupérer sa pièce d'identité, là elle risque non seulement d'aller en prison, mais surtout elle risque de se faire tuer.
Il n'y a pas que des Palestiniens. D'Eritrée, mais des Israéliens également, pas forcément des colons, mais des personnes qui sont là depuis fort longtemps et avec qui il y a des liens étroits avec la population. Et quel est ce changement, par exemple, s'il y en a un ?
Des Israéliens qui vivent sur la commune de D'Eritrée, il y en a, bien sûr qu'il y en a, mais ce sont des colons.
Mais il n'y a que des colons, il n'y a pas des personnes qui ont eu
non,
peut-être...
Non. Il n'y a pas d'Israéliens qui vivent sur la commune de D'Eritrée et qui ne soient pas des colons. Non, il n'y en a pas. Il y a des Israéliens qui viennent pour une journée, pour 2 journées, quotidiennement, comme ça, pour aider les Palestiniens. Mais il n'y a pas d'Israéliens qui vivent en Cisjordanie et qui ne sont pas des colons. Même si... Au niveau juridique, c'est pas possible.
Pour cette cueillette de cette dernière période, comment se passaient ces 2 journées? Si vous parliez de pression hein, du point de vue des colons, est-ce qu'ils étaient effectifs lors de ces cueillettes?
Ils étaient effectifs, c'est-à-dire qu'ils étaient là pour déranger la cueillette, ouais, bien sûr.
Et souvent, comment s'opérait ce dérangement?
Mettons, vous êtes... Vous êtes en train de cueillir les olives, vous partez le matin, etc., avec une famille, donc, avec des Palestiniens, donc avec une famille. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants. Parce que habituellement, la cueillette des olives, c'est une période assez festive. C'est dans la... Oui, c'est un rite annuel, quoi, qui lie les gens, etc. Donc, on part le matin, assez tôt, et on va pour cueillir les olives. Et mettons, à 2h, à 14h, il y a un groupe de 5 ou 6 colons. Comme j'ai dit, en majorité des cas, entre 15 et 25 ans, qui viennent comme une meute. C'est souvent, les oliviers sont souvent sur des terrasses, donc ils sont sur les terrasses un peu plus haut. Et ils bougent là tout d'un coup. Et puis tout d'un coup, ils se mettent à courir et ils vous agressent, quoi. Hein.
Vous-même avez été agressé, donc.
Oui, moi, j'ai pas été agressé physiquement. Je m'étais toujours dit dans ma tête, qu'est-ce que je ferais? Parce que j'y ai réfléchi avant de... Les autres, surtout l'année 2024, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais me comporter si je suis agressé par des colons? Et moi, j'ai une tradition... Enfin, bon... pas une tradition, mais j'ai une pratique de méditation, etc. Et je me suis dit, le mieux que j'ai à faire, surtout à mon âge, c'est de m'asseoir là où je suis, par terre, et de me mettre en position de méditer, quoi. Mais bon, de là à le faire, je n'étais pas mis dans les conditions de le faire. Cette année, je l'ai fait. Et ça, ça m'a rendu fort, quoi. Je leur ai tourné le dos. Quand je voyais qu'ils commençaient à descendre en courant, etc., je leur ai tourné le dos. Et je me suis assis par terre et je suis resté, voilà, comme ça.
Et
j'ai jamais été agressé physiquement au contact. Il y en a d'autres qui ont été agressés, qui ont reçu des pierres, etc. Moi, ça ne m'est pas arrivé. Et puis, des choses vraiment paradoxales. Mettons, une journée, j'étais avec une famille d'Abou Bassam, et peut-être à 10 heures, on s'est réunis pour boire le thé, le café, manger un petit peu, etc. Et puis, on était tous en cercle, donc, avec le feu au milieu pour chauffer la théière ou la cafetière, etc. Et puis, il y en a qui se sont mis à taper dans les mains. Il y a une petite fille qui s'est levée, qui a dansé. Et moi, je l'ai rejoint, etc. Et 2 heures plus tard, on était attaqués. Voilà, il y a des moments festifs, et puis il y a des moments, comme ça, terribles, quoi.
Mais auprès de ces personnes avec qui vous cueillez, est-ce qu'il y a des échanges? Et puis, est-ce que vous avez pu percevoir leurs sentiments, leurs réactions aussi dans cette situation?
Ben oui, bien sûr, il y a des échanges. Moi, ça...
Mais lesquels, justement, qu'est-ce qui...
Quels échanges vous pouvez vous imaginer? On parle, on rigole sur quelque chose. Moi, j'ai même dansé plusieurs fois avec des individus de la famille, etc. Et puis, mettons que la famille avec laquelle on va, il y a une quinzaine de personnes. Bon, on ramasse pas tous les olives sur le même olivier. Donc, il y a des bâches qui sont mises par terre, etc. Et puis, chaque fois, oui, bien sûr qu'on parle. Comme ici, quand on fait les vendanges, c'est la même situation. Hein. C'est très, très comparable à faire les vendanges.
Est-ce que, justement, lors de cette conférence du 14 à Anderta, vous allez pouvoir peut-être aussi exposer des témoignages que vous, peut-être, vous transmettrez de leur part?
Oui, bien sûr, c'est ce que je fais. J'essaie de faire... C'est pas la première intervention que je fais sur le temps que je passe à Derristia. Mais l'avantage que j'ai, c'est que j'ai passé... Voilà, ça fait 15 ans que j'y vais. Donc, je suis proche des individus que je connais à Derristia. Et ce que je veux essayer de transmettre, c'est justement le quotidien. Comment est-ce qu'ils vivent? Comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ça? Donc, j'utilise des photos, j'utilise des vidéos un peu aussi. Et puis, je me fixe sur 3-4 familles pour faire sentir aux gens comment ces familles vivent, quel est leur quotidien et tout, que les gens se sentent liés à ces personnages que je présente. C'est ça mon objectif. Ouais. C'est pas tellement parler de politique ou etc.
Non, mais simplement...
Ou de l'histoire, etc. C'est le quotidien de ces villageois,
oui,
que j'essaye de transmettre, quoi.
Mais justement, est-ce qu'il y a des paroles que vous propagerez de leur part aussi Je ne sais pas si un texte ou
un texte qui viendrait d'où
de ces habitants qu'ils ont envie de partager ces sentiments. Est-ce que vous avez êtes en quelque sorte un porte-parole de leur voix?
Oui, bien sûr que je suis un porte-parole. Quand je suis là-bas, il y a rarement une journée où les gens de Derristia, il n'y en a pas quelqu'un qui me dit merci d'être là, parce que c'est important pour eux justement de savoir qu'il y a des individus dans le reste du monde qui se soucient de comment ils vivent. Mettons, on se réunit à 10 tous les jeudis contre le génocide à Gaza et pour la Palestine. Souvent, je fais une photo du groupe et je l'envoie là-bas. Et ça donne de l'énergie. Hein, bien sûr.
Les conditions de vie se sont-elles beaucoup dégradées aussi au quotidien pour ces populations, cette population de d'Erbitzia?
Oui, bien sûr que c'est dégradé.
Les services, l'école, qu'est-ce qui s'est dégradé par exemple?
Voilà, l'école, mettons. l'autorité palestinienne. Les fonds qu'elle reçoit passent par Israël. Hein. Et même les taxes qui doivent récolter sur l'équivalent de la TVA, etc., c'est l'État d'Israël qui les récolte, ensuite qui les redonne à l'autorité palestinienne. Et là, l'autorité palestinienne, elle est complètement asséchée des fonds. Donc l'école, en ce moment, l'école est ouverte 3 jours par semaine, faute de pouvoir payer les instituteurs et les enseignants. Donc rien que ça. Et quand on sait à quel point l'enseignement est important pour les Palestiniens, parce que ça fait des décennies que la Palestine exporte sa matière grise. Les Palestiniens ont un niveau d'enseignement très élevé. Peut-être qu'il y a plus de docteurs, de gens possédant un doctorat en pourcentage en Palestine qu'en France, mais ça ne m'étonnerait pas, quoi. C'est une population qui est très instruite.
Ce dimanche 14, il y aura donc quelques projections de photographies également, de vidéos, et puis votre témoignage.
Ouais.
Il y aura peut-être quelques à côté, un peu de convivialité aussi autour.
Il y a Andarta, c'est...
Oui, bien sûr, mais typiquement palestinienne. Non,
on n'avait pas prévu ça.
D'accord.
Non.
Je crois que c'est bon. Pour connaître un peu plus, au-delà de ce rendez-vous du dimanche 14, est-ce qu'il y a une possibilité de connaître un peu justement cette activité sur la Palestine par des écrits ou des témoignages sur Internet ou sur des documents accessibles ?
Ben oui, il suffit de s'intéresser.
Je parle de votre part. Est-ce que vous avez des... est-ce que vous tenez un journal ou...
Oui, le 14, j'aurai une publication là, que je vendrai. Là,
d'accord.
Qui a déjà été vendue, qui m'a aidé à financer mon voyage. Là. Oui, bien sûr.
Pour terminer, est-ce que vous avez un morceau de musique que vous voudriez peut-être mettre en fin d'émission ?
Oui, bien sûr.
Vous avez un titre à proposer ou...
Le groupe Soul 47.
Eh bien, Pascal Wick, merci beaucoup d'être venu sur RDUA pour nous parler donc de ce rendez-vous à Andarta, ce dimanche 14 à 18h, pour parler de votre séjour en Cisjordanie, et particulièrement au village de Daritsea.
Eh bien, merci de m'avoir accueilli.
Bonne soirée.
Bonne journée. Au revoir.
Put the soul, in the 47. Shampoo the soul, in the 47. Shampoo the soul, in the 47.
نتقارع حدود عنا حلم الغياب نستقبلها يا ابن العيد يا ابن النهر يا ابن النبع يا ابن البحر ابن الزنكو والسنقا هاي السقه وهاي الناس بنت العيد بنت النهر بنت النبع بنت البحر بنت الزنكو والسنقا هاي السقه وهاي الناس
Shampoo the soul, 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 soul,